cette dernière journée et non des moindres, après toute la base de connaissances que nous avons eue, les chercheurs ont éclairé nos lanternes et pour que nous puissions désormais rallumer, sinon activer la flamme pour atteindre l'OMD 5. Et je crois que nous avons d'éminentes personnalités aujourd'hui qui vont faire des présentations dans le sens de nous amener à la fin de la journée à proposer des actions concrètes, à alimenter le plaidoyer pour que nous puissions prendre des décisions, et cela à tous les niveaux. Au niveau de la femme elle-même qui vit le drame de la mortalité maternelle, sa communauté, et que les décideurs puissent prendre les décisions utiles pour à la fois assurer la fourniture des ressources et des moyens pour que l'offre de services soit de qualité et pour que les politiques et les stratégies définies soient pertinentes pour assurer la prise en charge, surtout la prévention de la mortalité maternelle. Tout de suite, cette journée est courte parce qu'on a l'ambition de faire des travaux de groupe. Il y a Alain Puyal et Yannick Jaffré qui ont accepté. Je pense qu'au cours des débats, sûrement, ils vont essayer de nous restituer ce qu'ils ont en tête par rapport aux présentations prévues. Nous allons écouter M. Elhaj Adoua Dagobi, qui est socio-anthropologue, qui travaille au LASEL au Niger, qui va nous faire une présentation sur l'éducation pour la santé, vue d'en bas, population et interprétation.
Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. On m'a demandé de parler de l'éducation pour la santé vue d'en bas. Et j'aurais bien voulu parler des aspects institutionnels, c'est-à-dire de l'éducation pour la santé vue d'en haut, mais je m'abstiendrai volontairement et je me concentrerai sur ce qui m'est demandé, et en focalisant, disons, mes propos sur la question des rapports entre les dispositifs techniques, entre un dispositif technique, celui de l'éducation pour la santé, et des populations locales. Je précise que cette communication est la suite d'un travail de thèse que j'ai déjà présenté en avril dernier à l'IHESS de Marseille. J'ai travaillé sur la réinterprétation des métissages d'éducation pour la santé sur un dispositif technique et de développement. Et je ne parlerai donc pas véritablement de mortalité maternelle. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas désorienté. Je résumerai ces problèmes d'interaction en une question simple. Et la question, c'est celle-là. De quelle manière les populations réagissent-elles au message d'éducation pour la santé et pourquoi? Je présenterai d'abord une typologie générale des attitudes que j'ai observées dans le cadre du travail que j'ai effectué. Et puis j'examinerai ce qu'on peut appeler des déterminants socio-économiques des conduites sanitaires des populations, en insistant bien évidemment sur le cas du Niger. Alors, la typologie des attitudes observées. D'abord, quand les populations reçoivent des messages en guise de réponse, trois attitudes se présentent généralement. Soit on accepte les messages et donc on y adhère, et si c'est des pratiques, on y souscrit. La deuxième possibilité, c'est qu'on peut aussi rejeter ces messages et s'opposer donc totalement et s'abstenir de faire le comportement demandé. Disons donc, entre ces deux possibilités, entre acceptation et rejet, il n'y a pas de compromis possible où on accepte ou on rejette. Mais il y a bien entendu une troisième possibilité qui consiste à recomposer le message reçu à la lumière de ce que le sujet pense être normal. Ici, le cas de figure le plus courant, c'est qu'on prend des bribes du message reçu et on le recompose à partir de ses propres grilles d'interprétation. Et on peut aussi parler de syncrétisme à ce niveau. Alors, je vais donner un exemple dans chaque cas. Pour les messages acceptés, par exemple, d'une manière générale, tous les messages qui préconisent l'évacuation des malades dans les situations d'épidémie, les malades atteints de maladies épidémiques, d'une manière générale, ces messages sont acceptés. Disons que les populations ne badinent pas là-dessus. Et de manière générale, pour toutes les questions pour lesquelles les populations n'ont pas de solution en matière de médecine locale, ils souscrivent assez souvent au comportement demandé. Un exemple type de message rejeté, notamment dans certains groupes de la question de la population, c'est l'espacement de naissance, par exemple. Ce n'est pas accepté par certains groupes de la population. Également, l'usage des préservatifs, mais également la question de la transmission hydrique des maladies. L'eau transmet des maladies, et certains voient cette proposition d'un mauvais œil et donc ils s'y opposent. Alors, un exemple de forme de recomposition des messages d'éducation pour la santé. Ici, je vais donner un exemple, un ou deux exemples à propos de la thérapie de réhydratation orale. Et une femme, une ménagère, dit par exemple en racontant comment elle a préparé la solution de réhydratation orale, elle dit « Mon enfant de 23 mois souffrait de diarrhée. Ça a commencé la nuit et ça le fatiguait beaucoup. J'ai alors pris de l'eau de forage dans un verre de thé, puis une pincée de sel et un carreau de sucre. J'ai tout mélangé et je lui ai donné à boire. Comme c'était la nuit, je voulais préparer juste pour sa consommation immédiate. On dit que si la solution passe la nuit, il faut la jeter. Il faut jeter le reste. Pour ne pas avoir à jeter, j'ai juste préparé ce qu'il peut boire. Alors, vous voyez dans ce message, il y a bien évidemment la question de la préparation de la solution salée sucrée qu'on enseigne aux femmes dans les centres de santé. Et on dit de prendre deux pincées de sel à trois doigts, à diluer dans un litre d'eau et à mélanger avec 8 morceaux de sucre dans un litre d'eau. Et donc, la femme, comme c'est la nuit, elle ne veut pas avoir à gaspiller du sucre et du sel pour jeter ensuite la préparation le lendemain. Elle se contente juste de... Elle dit, bon, dans sa logique, il faut juste préparer ce que l'enfant peut boire dans l'immédiat et puis demain, on verra. Logique économique, bien évidemment. Alors, un autre exemple, une autre ménagère dit, quand une personne vomit et fait la diarrhée, on lui donne une potion à base de fruits d'arbre à tanin, écrasé et 8 morceaux de sucre. C'est une recette locale qui empêche à l'eau du corps de finir. Alors, ici, vous avez un mélange entre... un message de santé sur la préparation de l'eau salée sucrée, vous retrouvez assez facilement les 8 morceaux de sucre, mais en même temps, une recette de médecine traditionnelle à base de l'arbre de fruits à tanin pour lutter contre la déshydratation qui est ici appelée l'eau du corps qui finit. On voit donc que globalement, à travers ce schéma de réinterprétation, que les messages reçus par les acteurs locaux ne sont ni acceptés tels quels, ni rejetés, mais ils sont très souvent recomposés par bribes et ils sont incorporés dans les structures cognitives existantes. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir qui adopte, qui rejette et qui recompose, donc qui innove. Et en reconstituant la trajectoire des acteurs que j'ai interrogés, j'ai essayé de faire une typologie de ces acteurs-là. Et vous avez les adoptants, ceux qui adoptent. D'une manière générale, ce sont des gens qui ont un statut social élevé, et en tout cas plus que la moyenne dans la population. Ils sont plus instruits que les autres, ils ont plus souvent voyagé que les autres, et ils possèdent un réseau social beaucoup plus élargi que celui de leur entourage. On retrouve dans ce type d'adaptant le constat effectué par Rogers dans son ouvrage Diffusion of Innovations, publié en 1983, dans lequel il constate que, au fond, les gens qui adoptent les innovations sont très souvent des gens qui ont un statut économique assez élevé et qui ont un réseau de relations relativement élargi. Les non-adoptants, par contre, et toujours dans les données que j'ai, sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont en général des paysans pauvres, analphabètes, et qui sont très peu ouverts sur l'extérieur. À l'inverse des adoptants, ils accordent moins de place au message d'éducation pour la santé et préfèrent se référer à l'expérience. Il y a donc, à leur niveau, une certaine forme d'empirisme qui est, au fond, la grille de lecture des messages. Troisièmement, les innovateurs, ils ont les mêmes caractéristiques que les non-adoptants. Et la précision, c'est que certains d'entre eux, évidemment, s'abstiennent de participer aux messages de sensibilisation qui sont assez souvent organisés dans les villages par les services de santé. Ils ont donc à peu près une compréhension approximative des messages et beaucoup de confusion, ce qui fait que bon, ils prennent un bout par-ci, un bout par-là et ils le recomposent pour en faire des messages, disons des conceptions à eux. Alors, peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin au-delà du profil des acteurs pour essayer de mieux comprendre les problèmes liés à la non-adoption des messages d'éducation pour la santé. Au fond, il y a des problèmes qui sont liés au dispositif d'éducation pour la santé dans sa forme technique, mais également au contexte général de l'offre des soins. Et ces deux facteurs-là limitent assez souvent l'adoption des messages par les populations. Premier problème, est l'approche de l'éducation pour la santé qui est généralement adoptée dans les campagnes de sensibilisation et les deux types top-down. C'est un animateur qui parle à des populations comme un enseignant parlerait à ses enfants, disons à ses élèves. C'est assez directif et c'est généralement expéditif, avec un ton assez condescendant et paternaliste. Et le tout, c'est que vous n'avez pas d'échange entre les deux types d'acteurs, et ça fait que le message est à sens unique. Deuxième type de problème, et les campagnes de sensibilisation, et disons les acteurs de ces campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire les animations de séances, et assez souvent n'ont pas reçu de formation en communication. Très souvent, c'est des infirmiers ou des sages-femmes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, mais c'est rarement des communicateurs bien formés. En tout cas, jusqu'à 2002, et au Niger, où la première promotion de communicateurs a commencé à être reversée dans les districts sanitaires. Donc, ces agents qui n'ont pas reçu de formation en communication et ont assez souvent peu de tact pour effectuer les séances de sensibilisation, ils ne saisissent pas toujours les enjeux liés à une interaction pour faire passer un message. Troisième problème, les séances de sensibilisation s'effectuent dans un contexte de conflit entre les soignants et les soignés. C'est toute la question de l'accueil dont Fatou Ouattara avait parlé hier et qui pose la question de ce qu'on peut appeler, de ce qu'Yannick Jaffré et Olivier de Sardin dans l'ouvrage que Fatou avait cité, avait appelé une médecine inhospitalière. Il y a beaucoup de conflits et de suspicions entre, évidemment, les agents de santé et les populations. Et cette trame des campagnes, de cet arrière-plan de conflit nourrit une certaine méfiance qui ne facilite pas la réceptivité des messages. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ces constats? Le premier, me semble-t-il, c'est la nécessité de rendre les services de santé plus attrayants et faire un bon accueil et rendre le service beaucoup plus plaisant, beaucoup plus convivial pour les populations. Et donc, cela pose toute la question du management au quotidien des services de santé. Deuxième enseignement, c'est la nécessité d'assurer une meilleure formation aux agents et qui s'occupent de ces questions de sensibilisation. Et cela pose ce que Yannick Jaffré appelait la redéfinition de la place de l'anthropologie dans les curricula de formation des agents de santé et qui pose toute la problématique d'une anthropologie de la santé et pour les écoles de santé dans nos pays. Enfin, troisième et dernier enseignement, c'est la nécessité de relever le niveau de vie des populations. Et on l'a vu tout à l'heure que le statut économique des gens favorise l'adoption des messages. Et pour amener les gens à changer, à mon avis, il faudrait donc améliorer leurs conditions d'existence. Je voudrais, à ce sujet, finir par une assez longue citation du texte de Cheikh Amidou Kane et de Pierre-Emeril Mandel à propos de la... Disons, quand il plaide pour une redéfinition des politiques de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et les auteurs disent notamment, dans les pays industrialisés, la plupart des maladies de pauvreté, celles qui sont le résultat de l'interaction entre un environnement écologique et un environnement social sous-privilégié, ont disparu avec l'électrification, l'assainissement du milieu, la généralisation de l'accès à l'eau potable, l'évacuation des eaux usées et excrétées dans des conditions sanitaires acceptables, l'amélioration de la condition des femmes et des conditions de travail, la réduction des heures de travail, l'élévation des connaissances, une meilleure nutrition et l'augmentation des revenus. La disparition quasi totale de certaines maladies, lèpre, peste, choléra, paludisme et autres endémies, la réduction sensible d'autres maladies, tuberculose, entérite, etc., n'ont pas été liées au progrès de la médecine ni à ceux de la chimiothérapie ou à l'extension des soins et services hospitaliers. Les diverses études historiques menées à ce sujet montre que l'abaissement de la mortalité infantile, qui au début du siècle avoisinait en Europe et aux États-Unis les taux actuels du tiers-monde, est intervenu avant l'invention des antibiotiques et de l'usage généralisé et obligatoire de la vaccination. Ce sont les mesures sociales et économiques, le plus souvent hors de la compétence du ministère de la Santé, qui ont pour l'essentiel contribué à améliorer l'état de santé de la population. Il en va de même dans les pays en voie de développement où l'insuffisance de l'eau, en quantité et en qualité, les vecteurs hydriques et ailés, propagateurs de maladies, le péril fécal, la malnutrition et l'habitat insalubre constituent encore aujourd'hui les véritables problèmes d'environnement qui sont au cœur de la problématique de la santé des populations. Il en est de même, me semble-t-il, pour la maternité maternelle et pour la mortalité en général. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Dabgobi.